Une fois pour toutes. Une émission proposée par la Concertation des Églises Chrétiennes de Liège.
Amis auditeurs, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous retrouvons aussi avec plaisir Éric Pétry, venu partager avec nous une réflexion sur les liens possibles, ou non, entre spiritualité protestante et méditation zen. Éric Pétry, bonjour.
Bonjour.
Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir correctement introduit le sujet, alors je plonge et j'avoue ma perplexité. Protestantisme et zen, sont-ce vraiment des termes ou des perspectives compatibles ?
A priori, on aurait tendance à dire que non, directement, puisqu'on est dans des univers culturels extrêmement différents. Et pour un occidental, comprendre la pensée orientale est extrêmement complexe, et je pense inversement aussi. Alors oui, dans la mesure où on vit dans une époque quand même où les cultures, au sens le plus large du terme, sont décloisonnées, on sait qu'on vit dans un village global, dans une ère de globalisation et donc d'échanges, et les échanges au niveau de la pensée et des cultures ne sont pas négligeables. Donc sachant aussi que si on considère que l'homme est le même partout et toujours et qu'il est possible de partir à la recherche d'une sagesse que l'on voudrait universelle, alors peut-être pourrait-on dépasser le non a priori. Pour peut-être émettre quelques hypothèses et quelques convergences entre ces deux voies.
Alors, bon, j'imagine que la plupart des auditeurs sont un peu comme moi. Je vais jouer le candide, je vais dire le bouddhisme, oui, le zen, bon, qu'est-ce que c'est ? Alors, peut-être qu'on pourrait peut-être un petit peu situer, cadrer ce que c'est que la méditation zen et peut-être dans le cadre du bouddhisme, pour commencer, de manière plus générale ?
Oui, dans le cadre du bouddhisme, pour revenir à la question de départ des éventuelles convergences, certains ont dit que le zen était une espèce de réforme protestante à l'intérieur du bouddhisme. N'allons peut-être pas si loin, mais en tout cas, le zen est une branche du bouddhisme dit Mahayana, qui est en fait le bouddhisme du grand véhicule. C'est une branche du bouddhisme qui insiste particulièrement sur la notion de vacuité, de l'éveil et de la délivrance. En fait, zen, en japonais, signifie simplement méditation silencieuse. Et il serait né en Inde il y a 2500 ans. Cette tradition...
Quoi, la méditation
oui,
silencieuse, zen, serait né en Inde
il y a... Serait né en Inde il y a 2500 ans, mais est-ce que ça tient à l'histoire ou la légende ? La frontière est parfois très floue, puisque... Selon cette tradition, le zen puise son origine dans un événement qui, s'il n'est vraisemblablement pas historique, a le mérite d'être révélateur de toute sa philosophie. Alors, on dit que lors d'un de ses sermons, le Bouddha, afin d'expliquer son enseignement, se contenta simplement de cueillir une fleur. Et un seul de ses disciples comprit immédiatement et... pour toute réponse, se contenta de sourire au Bouddha. Celui-ci aurait alors déclaré qu'il avait ainsi transmis son trésor spirituel le plus précieux.
J'imagine la tête de nos paroissiens si le dimanche, un pasteur ou un prêtre, lors de l'homélie, faisait ce genre de choses.
Oui, on est là en pleine mystique, plein mouvement mystique et en pleine voie du silence. Si on veut le zen, savoir comment le zen est arrivé en Occident, le bouddhisme d'abord est très mal connu en Occident jusqu'à peu près au XIXe siècle, où là, on pourrait citer le philosophe Schopenhauer, qui dans son fameux ouvrage « Le monde comme volonté et représentation », qui est paru vers 1819, fait un peu de figure de pionnier puisqu'il a introduit le bouddhisme dans sa pensée. Pensée qui aurait une énorme influence en Occident, mais qui donne une vision du bouddhisme assez négative, assez pessimiste. Et c'est un peu une vision dont on est encore héritier actuellement, puisque quand on pense au bouddhisme, on s'imagine souvent que le thème de la vacuité, par exemple, correspond à notre néant.
Un peu fataliste,
voilà, c'est ça. Mais il faut dire que Schopenhauer avait accès à son époque à des textes bouddhiques d'une certaine école, un peu ascétique dans le bouddhisme. Mais on sait maintenant, puisque les textes sont correctement traduits, on a plus facilement accès à des textes chinois, coréens, japonais. Ils sont traduits par de très bons auteurs dans des éditions tout à fait correctes, même en poche parfois. On sait maintenant que le bouddhisme est une spiritualité beaucoup plus vaste que la seule vision négative de Schopenhauer. Donc c'est surtout à partir, je dirais, des années 60 qu'on a vraiment accès aux grandes spiritualités orientales à travers des grandes figures comme Durkheim, par exemple, ou plus récemment encore Arnaud de Jardin, qui sont vraiment des personnalités ponts entre Occident et Orient, pas seulement au niveau des spiritualités, mais au niveau de la culture en général. Mmh. Donc voilà, on a plus facilement accès aux modes de pensée orientaux. Et donc, je veux dire, les ponts sont plus faciles maintenant pour un chercheur moyen, je vais dire quelqu'un qui est un peu curieux, de découvrir des grands textes du bouddhisme, du zen en particulier.
Et quelle est ça c'est par rapport au bouddhisme et le zen en particulier, quelle est la spécificité du zen qui nous interpelle aujourd'hui?
Alors la spécificité du zen, je dirais que le zen c'est d'abord une voie relativement mystique à l'intérieur du bouddhisme qui insiste d'abord sur la pratique et sur le silence. Il n'y a pas vraiment de doctrine, de métaphysique ou de théologie, entre guillemets, en zen. Donc Taizen Dashimaru, qui est un personnage très important, qui a introduit le zen tant aux États-Unis qu'en France, disait toujours « le zen, c'est zazen ». C'est-à-dire, le zen, c'est la position assise. La pratique du zen, dans son dépouillement, pourrait se résumer à l'assise. Le méditant est en position du lotus ou en demi-lotus, la colonne vertébrale droite, sans étrigie, et les mains jointes devant lui. La respiration est essentielle dans le zen. Doit naturellement provenir du bas-ventre. En Orient, d'ailleurs, le centre de l'aide réside dans le ventre. C'est le hara, le fameux harakiri des Japonais. Donc le zen, sa particularité, c'est que c'est une pratique.
Eh bien, nous faisons une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Vous écoutez RCF, la radio dans l'âme, au micro Vincent Tonon et Éric Pétri, avec lequel nous découvrons les points de force que l'exemple de la méditation zen pourrait peut-être apporter à notre spiritualité. Alors Éric Pétri, voilà, on vient d'un petit peu brosser en gros les grandes lignes, le bouddhisme, le zen, zazen, dans cette perspective. Mais la première réaction que l'on a généralement, c'est quand même de se dire « c'est très éloigné de nous ». Et j'imagine qu'il y a un certain nombre de divergences fondamentales entre la pratique du zen, ou la conception bouddhique ou la conception zen, et le christianisme. Quelles sont les divergences principales?
Il y a effectivement beaucoup de divergences et elles sont, comme vous l'avez dit, fondamentales. D'abord, le bouddhisme zen est un panthéisme, c'est-à-dire que dans cette conception, l'univers est un et on parle plutôt du grand tout. C'est plus précisément ce qu'on appelle l'émanation ou le Tao, puisque le zen est imprégné aussi de philosophie taoïste. Dans cette conception, tout relève de la réalité suprême, et c'est d'ailleurs pour cette raison notamment que pour les hindous, par exemple, tout est sacré. Alors, ce qui entraîne qu'il n'y a pas de notion de tout autre, c'est-à-dire de notion d'un Dieu qui serait situé en dehors du monde, et ni encore moins de Dieu créateur.
Alors, ce qui pose quand même un problème fondamental.
Fondamental, tout à fait, oui. Cette notion de dichotomie entre le créateur et créé est totalement absente de la métaphysique traditionnelle orientale. En principe, un oriental est incapable de comprendre même l'idée d'un dieu créateur qui est situé en dehors du monde. Normalement, pour lui, c'est totalement inconcevable. Mm-hmm. Inconcevable. Je dirais ensuite que le zen... La pratique du zen accorde une importance fondamentale au corps qui ne fait qu'une unité avec l'esprit. on est en présence d'un concept d'unité fondamentale de l'univers. Et donc, dans sa pratique, le méditant utilise son corps, la respiration principalement, pour calmer l'esprit. Dans le zen, on ne calme pas l'esprit avec l'esprit, ce qui équivaudrait à vouloir éteindre le feu avec le feu, mais on calme l'esprit en utilisant son corps. D'abord s'asseoir et respirer, laisser ses pensées aller et venir, revenir au souffle, y fixer son attention. Et donc finalement, le corps est le véhicule. Par rapport à un christianisme où on a quand même relativement pendant longtemps négligé le corps. Et sur un plan plus sociologique, alors, je dirais que le protestantisme, en particulier, est aux antipodes d'une philosophie, le zen en l'occurrence, basée sur l'idée de non-faire, non-agir. Le protestantisme, qui lui est plutôt prompt à l'activité, l'activisme, est quand même le terreau de la civilisation moderne, pas par beaucoup d'aspects, où toute forme de quiétisme est non à propos, je dirais. Le zen, contrairement aux idées reçues, ne force pas à l'inaction, mais il pousse l'homme à agir le mental vide, libéré des conditionnements mentaux, des représentations qui empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et je veux dire, ça, sur un plan sociologique, l'univers culturel imprégné par le taoïsme, le shintoïsme ou le zen, en particulier au Japon, mais a créé une civilisation complètement différente de notre civilisation. Et là, je dirais qu'il y a des divergences fondamentales au niveau sociologique qui sont extrêmement importantes.
Juste pour une petite question de clarté, quelle est la différence entre cette approche et la mystique, les grands mystiques médiévaux du Moyen-Âge? Je pense qu'il y avait quand même aussi une dimension, la méditation des grands mystiques, très présente dans tout le Moyen-Âge et encore même de nos jours, dans certains mouvements monastiques et ainsi de suite. Et où se situe vraiment la différence entre cette approche-là et l'approche zen?
Là, tout à fait, c'est une question tout à fait intéressante parce qu'on en vient là tout doucement aux convergences. Alors, parce que, effectivement, si on reprend, je ne parlerai même pas des spiritualités monastiques où là, dans quelques monastères, on s'intéresse de près aux pratiques zen et je pense que dans un certain nombre d'entre eux, on intègre même parfois des approches méditatives issues, je ne dis pas le zen en particulier, mais issues des cultures orientales. Mais je dirais aux sources même de la spiritualité protestante en particulier, mais plus lointaine aussi, il y a des choses en commun. On connaît bien l'expression « chère à Luther » qui est inspirée de la mystique rhénane, 13e, 14e et 15e siècle, où il dit « nul ne peut être plein s'il n'est vide ». Il y a une spiritualité médiévale, mystique, qui est axée, qui ne méconnaît pas en tout cas les notions de vacuité, d'unité aussi de l'univers, d'anéantissement en Dieu, si on pense à s'abandonner totalement, jusqu'à se fondre totalement dans une unité parfaite. Et là, je ne dis pas que c'est des courants qui ont été nécessairement bien vus par les institutions, y compris protestantes, mais je pense que là, effectivement, dans certaines formes de mystique occidentale, on n'est pas très loin d'une approche proche, c'est le cas de le dire, d'une mystique, du courant zen en tout cas, qui est aussi dans son expérience intérieure profonde, qui me semble relativement convergente. Je dis relativement.
Toute la nuance se situe dans le terme, voilà. Évidemment. De manière vraiment plus précise, y a-t-il un point de convergence ou un point commun entre un aspect propre au protestantisme et au zen?
J'en vois un personnellement, c'est ce que j'appellerais le partage d'une spiritualité du déjà-là. Dans la conception chrétienne et protestante en particulier, malgré le péché, le chrétien prend conscience qu'il est déjà sauvé et que son salut ne lui appartient pas. La sanctification, au sens de Calvin par exemple, est aussi quelque part une prise de conscience de la grâce libératrice en action malgré le péché. C'est, je pense, le sens, enfin on en pense ce qu'on veut, mais c'est le sens mystique de la prédestination finalement. L'expérience de Luther constitue aussi, à mon sens, un véritable lâcher-prise. Alors, lâcher-prise par rapport à quoi ? Par rapport à l'angoisse du salut. Pour la théologie de la grâce, la doctrine fondamentale du protestantisme, le royaume est déjà là, en quelque sorte. Dans le Zen, il est dit que tout homme possède déjà en lui-même la nature du Bouddha. La pratique n'étant finalement qu'une prise de conscience par rapport à cette réalité, une libération des conditionnements mentaux qui en obstruent l'accès direct. Je pense que voilà, si on veut vraiment trouver un point commun, c'est le partage d'une spiritualité du déjà-là.
Eh bien, nous faisons encore une petite pause musicale pour méditer sur ce déjà-là et nous nous retrouvons tout de suite après. Vous écoutez RCF, la radio dans l'âme. Au micro, Vincent Tonon et Éric Pétri, avec lequel j'abordais aujourd'hui les points de force que la méditation zen pourrait apporter à notre spiritualité. Et déjà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors voilà le moment de tirer un petit peu quelques conclusions ou en tout cas quelques perspectives. Et la première question que j'ai envie de poser, c'est dans ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai un peu l'impression qu'on disait le protestantisme semble avoir perdu quelque chose dans son approche très pragmatique, très dynamique, l'activité, faire des choses, et au contraire, cette approche peut-être plus mystique, cette méditation où on doit s'abandonner, on doit se laisser investir par quelque chose. Alors, quelles sont les perspectives que vous pensez qu'on pourrait tirer de ce rapprochement entre le zen et la pensée ou la mystique protestante ?
Oui, je dirais que le zen, c'est d'abord une pratique qui, à mon sens, peut être dépouillée, en tout cas retirée de ses aspects culturels ou religieux. Donc c'est une pratique qui peut, c'est comme la psychanalyse. Quelque part, rien n'empêche un croyant de faire une psychanalyse. Bon, ce n'est pas des voies incompatibles. C'est peut-être un outil. En tout cas, je pense qu'il y a des éléments de réflexion à en tirer, effectivement, par rapport à notre activisme, parfois, qui nous empêche un peu de voir aussi que dans notre tradition protestante, il y a aussi une dimension plus contemplative, plus axé sur le silence, qui n'est pas tout à fait incompatible avec le zen, qui conviendrait peut-être, pour certains croyants en tout cas, de réintégrer dans nos pratiques culturelles ou même personnelles. Donc là, je pense qu'il y a des approches peut-être autres, une spiritualité peut-être portée sur le silence et la contemplation, qui n'est pas totalement absente non plus de notre tradition, mais qui convient sans cesse peut-être de se remémorer. Donc voilà, en fait, porter peut-être un témoignage utile aussi. Pourquoi ne pas non plus nous laisser inspirer ou réinspirer par les sources de l'expérience intérieure des premiers réformateurs, qui aussi, avant d'être mêlés aux luttes, à l'activisme, idéologique ou politico-religieux de leur temps, ont d'abord été des individus illuminés par une foi libératrice, saisis finalement par Dieu et à la découverte aussi d'une autre voie. Donc concrètement, oui, peut-être que là, il y a des convergences, des choses à retrouver par des détours plus lointains peut-être.
Retrouver une profondeur qui doit être à la base d'une action et pas être continuellement dans de l'activisme avoir l'occasion de faire ce retour sur soi.
Voilà, et peut-être, dans un ego peut-être surdimensionné, en tout cas bien dimensionné à échelle personnelle et parfois ecclésiale aussi.
Une dernière question, est-ce que cette perspective pourrait se concevoir en groupe, dans un cadre ecclésial, ou bien c'est une démarche essentiellement individuelle ?
Les deux sont concevables. Je pense que la pratique méditative est d'abord et peut-être essentiellement une démarche individuelle, personnelle, mais elle est aussi une démarche de groupe, puisque le zen se pratique dans ce qu'au Japon on appelle les dojos, donc des centres zen. Et il y a aussi une dimension collective, même dans le bouddhisme.
On pourrait imaginer une réunion de prière
peut-être pas en position du lotus, mais en tout cas, pourquoi pas des réunions de prière ou des moments de culte avec davantage des moments de méditation silencieuse ou des moments de silence qu'on ne se sent pas nécessairement obligé de combler par de la musique, par des paroles, par de l'activité finalement. On revient un peu sur soi.
Je crois que finalement, ça, c'est la grande ouverture et la grande perspective libératrice qui nous a apporté par rapport à notre époque où on a toujours besoin de remplir le vide, d'être actif et ainsi de suite. Effectivement, il y a là une dimension tout à fait renouvelée de la spiritualité et de la mystique. Bien, je crois que ce sera le mot de la fin pour cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager ces réflexions et peut-être qu'à l'avenir, on aura l'occasion de reparler de perspectives qui auraient été mise en œuvre de manière très pratique, en bon protestant, de manière très pratique.
Merci.
Amis auditeurs, je vous remercie d'avoir été à notre écoute et je me réjouis de vous retrouver très bientôt, je l'espère, pour un nouveau moment en votre compagnie.